le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. S'il sera bientôt impossible d'ignorer le lancement de ce film, A Vue d'Esprit vous propose une visite du monde de C.S. Lewis. Madame, monsieur, bonjour.
A Vue d'Esprit.
Michel Cocher au micro, Marie-Claude Cudry à la réalisation, vous accompagne pour cette édition d'A Vue d'Esprit. Alors dans l'actualité cinématographique de cette semaine, on va beaucoup, beaucoup parler d'un film, Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, un film coproduit par Disney. Dans le cadre d'A Vue d'Esprit, nous vous proposons un pas de côté pour découvrir l'écrivain, le philosophe, voire même le théologien qui se cache derrière ce film, le professeur C.S. Lewis. Et c'est vous, Serge Carrel, bonjour.
Bonjour Michel.
C'est vous qui nous emmenez à la découverte de cet auteur anglais.
Oui, le film Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique s'inspire directement de la première des chroniques de Narnia, en fait la première parue. Il s'agit d'une série de 7 histoires pour enfants, en fait des contes de fées, écrits donc par ce vénérable professeur de littérature du Moyen-Âge à Oxford, puis à Cambridge. Il est en fait le créateur d'une sorte de monde imaginaire, Narnia, le pays du lion Aslan, où l'hiver dure toujours à cause de jadis, la sorcière blanche.
Tout ça a l'air très énigmatique. Alors vous nous proposez d'abord le monde imaginaire de C.S. Lewis au travers de personnes qui ces derniers mois se sont résolues à publier soit un livre sur Lewis, ou à effectuer une traduction française d'un de ses livres, ou plus simplement, façon de parler d'ailleurs, à réaliser un site qui dit tout sur le film qui sort le 21.
Oui, aujourd'hui alors je vous propose de rencontrer Philippe Kinner. Avec une équipe d'amis, il a réalisé un site web qui s'intitule blognarnia.ch, et ce site vous dit tout sur le film Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, ainsi que sur la personne de C.S. Lewis, un ami du fameux J.R.R. Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Alors, rencontre avec Philippe Kinner. Il est ingénieur en télécommunication et il enseigne à Sainte-Croix, dans le canton de Vaud. Et il est bien entendu un authentique fan de C.S. Lewis.
Je suis tombé par hasard en surfant un jour sur un site américain qui s'appelle narniaweb.com, qui présentait un film qui allait sortir à la fin de cette année sur le thème du monde de Narnia, justement. Et en voyant ça, je me suis dit, ah bah tiens, ce serait une bonne idée de voir si quelque chose existe au niveau du milieu francophone, un site d'information sur un film qui va sortir. J'ai fait quelques recherches, et puis j'ai vu qu'il y avait vraiment, il y avait presque quasiment rien sur Narnia, ni sur C.S. Lewis. Donc je me suis un peu intéressé à C.S. Lewis. J'avais pas vraiment lu de livres de lui avant, ou lu les chroniques de Narnia, donc j'arrivais un peu comme un novice à ce niveau-là. Et puis je me suis dit, ah bah tiens, ça serait peut-être une idée de faire un peu de la promotion pour ce film, de présenter ce qui se passe et en même temps d'expliquer aussi aux gens qui était C.S. Lewis, de présenter son œuvre qui est quand même une œuvre assez gigantesque, avec plein de facettes différentes, plein de thèmes, de façons de communiquer différentes. Je me suis dit, bah tiens, il y a quelque chose à faire, alors allons-y, quoi.
Mais pourquoi avoir réagi ainsi par rapport à C.S. Lewis ?
C'est clair, au début, je me suis dit, tiens, un film sur Narnia, c'est qui C.S. Lewis ? Alors j'ai un petit peu été regardé, mes parents, ils avaient des livres de lui, j'ai vu qu'il traitait de thèmes qui sont commun à chacun d'entre nous, comme par exemple la souffrance, où il a vécu des choses aussi vraiment pas faciles avec sa femme qui est morte quelques années après qu'il se soit marié. Donc il a vécu des choses qui nous sont communes à chacun d'entre nous, et puis il sait communiquer ce qu'il croit d'une manière que je trouvais tout à fait pertinente. Et puis en plus, j'ai beaucoup apprécié le Seigneur des Anneaux. Je me suis dit, bah tiens, là peut-être qu'on aurait pu aussi présenter certaines choses par rapport au Seigneur des Anneaux. Donc
élaborer une sorte de site Tolkien à l'époque.
Voilà, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça m'a même pas traversé l'idée. Puis je me suis dit, ben là, il y a quelque chose à développer. En plus, cet univers un peu fantastique, comme ça, un monde parallèle, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi, particulièrement après avoir vu Le Seigneur des Anneaux. Donc, il y avait vraiment quelque chose, un créneau à faire, quelque chose qui me plaisait aussi au niveau artistique.
Du point de vue de la confection du site internet, vous êtes au début de l'année 2005 en chasse pour le nom de domaine narnia.ch.
Ouais, c'est clair que quand je me suis dit, tiens, il faut faire quelque chose avec ce film, la première chose que j'ai regardée, c'est est-ce qu'il y avait déjà un Narnia.ch qui avait été réservé. Et en effet, il était déjà réservé par un Suisse allemand de longue date. Donc, j'ai contacté cette personne, puis je lui ai demandé s'il serait d'accord que j'utilise pour un temps son nom de domaine pour créer un projet autour de ce film. Et lui, il n'était pas au courant de la sortie de ce film. Il aimait simplement bien Narnia. Il avait lu ça, je pense, quand il était plus jeune. Et puis, il s'est dit, ben, il y a pas de problème. Alors, il m'a laissé l'utiliser. Et puis, c'était aussi un petit clin d'œil qui m'a dit, ah, ben, tiens, ça se met en place gentiment. Alors, ça m'a donné, disons, l'idée de persévérer. Et puis, je me suis dit, enfin, d'avoir ce nom de domaine, c'était aussi quelque chose d'important pour commencer le projet.
Alors, ce qui est surprenant maintenant, c'est que votre site ne s'appelle plus Narnia.ch, mais blog.narnia.ch.
Ouais, en fait, dès le départ, j'avais choisi de le mettre sous cette terminologie-là. Et puis, c'était une bonne idée parce que ça laissait, disons, le nom de domaine Narnia.ch libre pour quelque chose d'autre. J'imaginais peut-être faire une présentation virtuelle du monde de Narnia ou quelque chose un peu très visuel comme ça qui n'a pas vraiment été fait. Mais ça m'a permis d'être en contact avec Disney qui, eux, avaient besoin de ce nom de domaine. Enfin, ils trouvaient en tout cas intéressant d'avoir ce nom de domaine. Donc, on a pu arriver à un arrangement où les deux parties étaient contents.
Et en quoi consiste cet arrangement, si on ose poser la question?
Ben, c'était simplement qu'eux, ils voulaient utiliser Narnia.ch. Et puis, moi, c'est clair, vu que ça faisait déjà plusieurs semaines que toutes les pages étaient référencées sur blog.narnia.ch, j'étais pas prêt à plus du tout apparaître sous le nom de narnia.ch, donc simplement on est arrivé à une idée où un lien serait fait depuis les pages du site officiel de Disney Suisse sur ce que j'avais créé.
Ce qui est un joli coup de pouce pour votre propre site, c'est quasi inespéré.
Ouais, c'est clair que c'était vraiment, pour moi, c'était quelque chose de très chouette, et puis une bonne reconnaissance du travail aussi qui est fait, et puis un bon outil de promotion, disons.
Philippe Kiner, au printemps dernier, vous avez ouvert un site qui aborde tout le monde de Narnia. Qu'est-ce que vous proposez concrètement sur un tel site?
Alors, la première chose qu'on propose, c'est de suivre l'actualité du film. Donc, un petit peu tout ce qui tourne autour de qui est en train de faire quoi, où est-ce qu'on en est, de montrer aussi des photos du film ou des bonnes annonces, etc. Donc, on a plusieurs sections dans le site. La première qui est justement l'information, ben, simplement, de ce film. Et la deuxième section, c'est aussi d'expliquer, premièrement déjà, la personne de Lewis, qui il était, quand est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a écrit comme livre, et aussi de présenter ses différents livres, parce qu'il n'a pas écrit que les Chroniques de Narnia, un conte pour les enfants, mais il a écrit aussi des livres pour les adultes, donc ça on le présente aussi. Et en même temps, on donne aussi des clés de compréhension du monde de Narnia, où on a fait un travail assez important, où on a mis en évidence tous les personnages qui apparaissent dans les 7 tomes de la collection de Narnia. On a montré aussi quels sont les lieux et dans quels tomes ils réapparaissent, les objets qui sont utilisés. Donc il y a toute une recherche aussi autour du monde de Narnia pour mieux comprendre dans quel monde on est immergé quand on va aller voir ce film, et qui présente aussi des clés de compréhension de Narnia, les personnages, qu'est-ce qu'ils vivent, etc. C'est des sections qui vont être mise à jour régulièrement d'ici la sortie du film.
Est-ce que vous avez découvert quelque chose d'un peu particulier sur ce monde cinématographique qui entoure la sortie de ce film?
Bon, ce que j'ai trouvé intéressant, en tout cas au niveau de comment les choses se mettent en place, c'est que la personne qui crée ce film, le directeur du film, donc c'est Andrew Adamson, c'est quelqu'un qui vient du monde de l'animation. Il n'a jamais travaillé avec des acteurs réels, entre guillemets, donc des personnes qu'on peut toucher. Et pour lui, c'est un énorme défi de créer un film comme ça, c'est clair. Mais d'après ce qu'on peut voir et lire autour de cette actualité, c'est qu'il y a son expérience justement d'effets spéciaux, de dessins animés est très utile dans toute la conception du lion, par exemple, qui n'est pas un vrai lion, mais qui est un lion d'image de synthèse. Donc, il a fallu faire un énorme travail de rendre le lion vraiment plausible. La même chose pour les castors, par exemple, ou certaines scènes avec les loups. Donc, il y a, au niveau technique, il y a vraiment des défis très importants qui ont été mis en œuvre. Et il y a également aussi Veta qui travaillait pour le Seigneur des Anneaux à l'époque, qui s'est occupé de toutes les armures, de la création des monstres, des maquillages, etc. Et quand on lit les interviews de ces personnes, on voit la passion qu'ils mettent dans leur travail pour vraiment créer un monde cohérent et puis auquel on puisse vraiment y croire. Donc c'est vraiment riche de voir tous ces artistes qui se donnent à fond pour ce film et en même temps pour être le plus proche possible du livre lui-même. Peut-être ce qu'on a reproché un peu à Peter Jackson qui a créé Le Seigneur des Anneaux, c'est d'avoir un peu mis sa vision du Seigneur des Anneaux dans le film. Peut-être que c'était un film peut-être trop personnel, qui représentait pas forcément 100% l'œuvre de Tolkien. Donc là, dans tout ce qu'on peut lire, c'est que les gens qui ont travaillé sur ce film essayent vraiment d'être le plus proche possible de coller au livre, mais de lui donner aussi une ampleur plus grande que celle qu'on peut entrevoir quand on lit le livre, où il y a beaucoup de scènes qui sont très peu détaillées. C'est pas aussi grandiose que dans Le Seigneur des Anneaux. Lewis a été beaucoup plus, nettement moins expliqué ce qui se passait, moins décrit les scènes de bataille ou des choses comme ça.
On sera dans un univers somme toute très proche du Seigneur des Anneaux, puisque du point de vue géographique, le film Narnia a été tourné en Nouvelle-Zélande.
Effectivement, donc c'est vrai que quand on voit les images du tournage où ils ont été, c'est vraiment des scènes grandioses, des étendues magnifiques. On va être dans un esprit assez proche du Seigneur des Anneaux, mais le monde est quand même pas tout à fait la même chose, parce que dans Narnia, au début, en tout cas, enfin, une bonne partie du film se passe dans la neige, parce que la sorcière maléfique a plongé le monde de Narnia dans un univers complètement divers, éternel. Donc, le Seigneur des Anneaux, on était plus dans un monde un peu sombre, qui n'est pas vraiment le même que celui de Narnia. Donc, Narnia sera quand même un peu plus coloré, je pense.
Philippe Kinner, qu'est-ce qui vous fascine particulièrement dans le monde de Narnia ?
On se retrouve dans un monde qui est peuplé d'animaux qui parlent, avec des personnages mythologiques qu'on trouve dans plusieurs cultures qui nous ont précédés. Et en même temps, c'est des enfants qui vont visiter ce monde, donc on se retrouve face aussi à qui l'on est, à nos caractères, au fait de quelqu'un, par exemple, va trahir le groupe. Donc c'est des choses que l'on peut vivre ou que l'on peut être confronté dans notre monde réel sur Terre, mais que l'on retrouve aussi dans Narnia, et ça c'est intéressant.
Philippe Kinner, la sortie par Walt Disney de ce film Narnia apparaît à beaucoup de chrétiens aujourd'hui comme une sorte d'aubaine extraordinaire. Est-ce que vous-même vous partagez ce sentiment-là ? Est-ce que derrière ces histoires extraordinaires, il y a l'essentiel de la foi chrétienne qui est véhiculé ?
C'est clair que si on a des lunettes chrétiennes, on a une connaissance, disons, des paraboles, de ce que Jésus a raconté quand il était sur la planète Terre, de ce qu'il a vécu, on voit en tout cas des similitudes assez fortes dans ce film, ça c'est clair. Pour moi, je trouve que c'est toujours riche d'avoir différents moyens de parler de ce que Jésus a fait quand il était sur la planète Terre. Donc ça, c'est Lewis a, d'une certaine manière, essayé de proposer une histoire qui peut ressembler, sur certains aspects, à ce que Jésus a vécu quand il était sur la planète Terre. Mais c'est pas on peut pas coller toute l'histoire exactement et dire on va tout retrouver des évangiles. C'est une supposition de dire, ben, si un monde imaginaire tel que Narnia existait, avec des animaux qui parlent, des créatures bizarres, etc., qui le peuplent, Comment est-ce que cette histoire de ce que Jésus est venu faire sur la terre, comment est-ce que cette histoire serait racontée, serait vécue dans ce monde imaginaire? Donc, lui, il s'est dit, ah ben tiens, c'est un lion qui va vivre certaines choses, mais il savait même pas vraiment comment ce lion allait être dans ce monde-là. C'est un petit peu comme si tout d'un coup l'histoire s'est déroulée sous ses yeux et qu'il l'a écrite. Donc, c'est une supposition de ce que Jésus aurait pu être, entre guillemets, dans un monde parallèle au nôtre. Mais c'est pas une allégorie à 100% où on peut dire que tout est exactement comme l'évangile.
Mais vous, c'est quelque chose qui vous a rejoint dans vos convictions personnelles?
Ah, c'est clair que il y a toute une scène où le lion va devoir s'offrir à la place d'un autre enfant qui méritait de mourir. Et c'est clair que ce passage-là, particulièrement du film, pour tous ceux qui ont cette foi ou cette compréhension de ce que Jésus a vécu sur la croix, c'est quelque chose qui est très parlant parce qu'on voit, disons, une autre façon de l'illustrer d'une manière plus, artistique comme ça, au travers dans un contexte complètement différent. Et ça, c'est quelque chose qui est touchant pour des gens qui, enfin aussi personnellement pour moi, qui cet acte de cette mort sur la croix est quelque chose d'essentiel pour ce qu'on vit jour après jour. Donc de le voir d'une autre manière, d'une manière plus imagée, plus, disons, artistique, ou un peu dans un contexte complètement différent, ça ouvre les yeux, ça permet d'encore mieux comprendre qu'est-ce que cela veut vraiment dire.
Pour vous-même, la lecture de ces chroniques de Narnia a jeté un regard nouveau sur vos convictions fondamentales, sur vos convictions chrétiennes?
Ça a jeté un regard nouveau, un autre angle de vision de ces réalités, de ces choses que l'on vit jour après jour. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont mis en avant sur des valeurs aussi que les chrétiens portent, qui sont la loyauté ou le fait de partager, de se donner, de donner sa vie pour les autres, pour ce fait aussi de pas s'attacher toujours à ce que l'on possède, des choses comme ça. Et là, il y a des éclairages qui sont intéressants en lisant ces chroniques de Narnia. Ouais.
En quoi, pour vous, Philippe Kinner, C.S. Lewis est une figure chrétienne intéressante?
Déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui est reconnu dans la plupart des courants du christianisme, que ce soit chez les catholiques, les protestants réformés ou les évangéliques. Il a su vulgariser la foi pour le commun des mortels d'une manière très pertinente, je trouve, pour son époque. Et en même temps, c'est un auteur qui était capable d'écrire des choses dans beaucoup de styles différents. Par exemple, les Chroniques de Narnia, c'est typiquement un livre pour les enfants, alors qu'il a écrit aussi des livres philosophiques qui sont des vraies prises de tête théologiques, probablement incompréhensibles pour la plupart d'entre nous. Et au milieu de tout ça, il a aussi écrit des livres sur des problèmes de la vie de tous les jours, sur par exemple la souffrance, d'où est-ce que ça vient, pourquoi est-ce qu'elle est là. Il a su mettre des mots simples aussi sur des problèmes complexes. Donc c'était vraiment un auteur assez complet, qui excellait dans beaucoup de domaines différents.
Philippe Kinner, si vous aviez en quelques mots à nous dire en quoi la rencontre de C.S. Lewis et des Chroniques de Narnia a donné peut-être une nouvelle direction à votre vie, qu'est-ce que vous diriez?
Alors ça m'a conforté, plutôt dans tout ce que j'ai à cœur au niveau des arts, de créer des célébrations qui mettent en place aussi l'imaginaire des gens, la symbolique des gens. Et je trouve que Lewis a réussi quelque chose de très chouette en créant une parabole un peu des temps modernes. Et ça m'inspire aussi pour me dire, ça vaut la peine d'être créatif. Il y a quelque chose de très chouette dans les arts, dans la manière de communiquer la foi au travers de symboles, de choses comme ça. Et ça m'a encouragé à continuer dans cette voie de la recherche de la symbolique, de la beauté, dans ce que l'on vit quand on se retrouve tous les chrétiens pour célébrer un temps ensemble.
Concrètement, vous avez des exemples de ces mises en scène symboliques, originales et créatives que vous auriez mises en place ?
Alors, ça tourne souvent autour des fêtes chrétiennes, par exemple Pâques, Noël. Et une chose que l'on a mis en place, c'est un repas qui était quasiment dans la nuit, où on a utilisé justement cette symbolique de la nuit, qui peu à peu devenait lumière, où on allumait des lampes, où il y avait une ambiance spéciale qui était là, où nos sens étaient en éveil. Et ça, c'était des choses qui nous permettent de comprendre des réalités spirituelles, de les mettre en évidence et de vivre quelque chose où tous les sens sont en éveil. C'est pas seulement notre intellectuel ou la voix ou notre l'auditif par exemple qui est mis en éveil, mais c'est aussi tous nos sens, les sens olfactifs ou l'ambiance même crée quelque chose qui permet de comprendre un peu mieux certaines réalités.
Et là, entre cette nuit et ces lumières, il s'agissait d'illustrer quoi ?
Alors c'était le début de l'Avent. L'idée, c'est de dire que ce que l'on vit est un peu mort, comme des fois on a l'impression de faire plein de trucs et puis il se passe pas grand chose, ou ce que l'on dit à Dieu est pas vraiment au fond de nous, c'est pas vraiment ce qu'on vit ou ce qu'on croit. Et l'idée, c'est de dire je suis un peu dans cette attitude de la nuit où je suis un peu perdu, je sais pas trop où j'en suis, et j'ai besoin de regarder vers cette lumière, d'avancer vers la lumière. Et c'est ce qu'on fête ensuite le 24 décembre, où justement cette lumière vient dans l'humanité. C'est ce qu'on trouve dans l'évangile de Jean, où Jésus dit voilà, la lumière a marché, est venue parmi les hommes, s'est faite chair parmi les hommes. Et donc c'était l'idée un peu de ce cheminement entre une vie qui paraît un peu fade, et puis peu à peu on s'ouvre à la lumière de Dieu.
Donc pour vous, vous trouvez en quelque sorte dans la personne de C.S. Lewis une sorte de maître en imagination, de maître qui vous permet de relayer des questions de foi de manière symbolique et peut-être plus holistique dans la manière de recevoir tout cela.
Tout à fait. Alors c'est vraiment ça l'idée, c'est de mettre tous nos sens en éveil, et puis d'avoir ce que vous disiez avant, cette idée de vraiment une foi, une communication qui prend en compte tout notre être et pas seulement son intelligence par exemple, mais corps, âme et esprit, effectivement.
Philippe Kiner, vous êtes vous-même papa. Est-ce que vous avez eu l'occasion ou est-ce que vous envisagez de raconter les chroniques de Narnia à votre enfant ?
Ouais, ce serait une façon de lire quelque chose en famille qui pourrait être très amusante. Après, il faudra voir est-ce que ça sera reçu, bien reçu de notre petite fille. Est-ce qu'elle sera intéressée par ça ? Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, de raconter des histoires, de lire en famille, je pense que c'est quelque chose de riche, et puis qui permet aussi aux enfants d'apprendre la lecture, d'avoir ce goût de la lecture, des livres, et c'est quelque chose qui pour ma part est très important, la lecture. Ouais.
Est-ce que vous-même, Philippe Kiner, vous arrivez à vous confectionner des mondes dans lesquels vous vous projetez et dans lesquels vous vous racontez des histoires ?
Alors, c'est clair que j'ai une imagination assez riche. Je m'imagine pas tellement des mondes parallèles, quoique après avoir lu, par exemple, les Chroniques de Narnia, c'est clair qu'on s'imagine dans notre tête ces différents lieux, comment est-ce que ça se passe, etc. Mais je me raconte des histoires, mais c'est plutôt dans ce monde ici, dans les contacts avec des gens ou des choses comme ça, c'est peut-être moins des mondes parallèles, fantastiques. Mais de s'immerger dans ces chroniques de Narnia, ça nous entraîne vraiment, c'est comme si on partait en vacances, on est dans un monde différent, et puis c'est très marrant, très intéressant.
Et vous-même, par rapport à votre quotidien d'enseignant, c'est une sorte de bouffée d'oxygène qui vous permet de reprendre pied, de vous reposer un peu, de vous détendre?
C'est surtout une détente, le fait de faire autre chose, de s'occuper. Ça me permet pas de m'échapper de mes soucis. Enfin, j'ai pas énormément de soucis. Je suis quelqu'un d'assez calme par nature, donc c'est plutôt pour se divertir et puis passer un bon temps.
Madame McCready?
J'en ai bien peur, oui. Le professeur n'est pas habitué à recevoir des enfants dans cette maison. Aussi, y aura-t-il quelques règles à respecter? Ne pas crier, ne pas courir, ne pas glisser sur la rampe, ne pas toucher les objets d'art anciens. Et surtout, ne pas déranger le professeur. 96? 97, 98, 99, 100. Attention, j'arrive.
C'est Philippe Kiner que vous avez rencontré, Serge Carrel. Rappelons qu'il est le concepteur principal d'un site, un site qui présente l'actualité du film qui va sortir cette semaine et qui s'intitule, vous l'aurez compris, Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique.
Oui, le nom de ce site, vous le trouverez sur la page web de notre émission espace2.ch/esprit. Vous trouverez aussi sur notre page web d'autres indications pour découvrir d'un peu plus près le monde de Narnia ainsi que la personne de C.S. Lewis.
Alors demain, nous poursuivons dans ces rencontres de personnes qui bougent autour de la sortie de ce film inspiré des chroniques de Narnia.
Oui, je vous invite à découvrir Denis Ducatel. Il est enseignant, il habite le Mont Pèlerin et il a traduit en français de nombreuses œuvres de C.S. Lewis. Il vient d'ailleurs de faire paraître « Les quatre amours », un ouvrage de C.S. Lewis qui n'avait jamais été traduit en français jusqu'ici.
Merci Serge, on vous retrouve demain.
Volontiers.
Marie-Claude Cudry signait à la réalisation de cette édition. Michel Cocher vous la présentait au micro. Bonne fin de journée à l'écoute d'Espace de suite de ce programme d'un air entendu.
Dans son livre « Ma vie avec Mozart », Éric-Emmanuel Schmitt adresse une trentaine de lettres ouvertes au compositeur qui sont autant de déclarations d'amour.
C'est lui qui a commencé notre correspondance. Un jour, pendant l'année de mes 15 ans, il m'a envoyé une musique.
Éric-Emmanuel Schmitt s'est prêté au jeu de la lecture pour nous faire partager sa correspondance. Il y évoque la vie, la mort, le théâtre, Dieu et le pouvoir de la musique de Mozart. Un feuilleton réalisé spécialement pour Espace 2 à suivre dans Méridienne jusqu'au 5 janvier du lundi au jeudi à 11h30.
espace 2. Il va être 17h. Vous retrouvez Daniel Robella après les informations.